Kiosque Magazine. Bonjour à tous, bon matin et bienvenue sur les ondes de Cana M au Kiosque Magazine de ce mercredi 11 février. Une matinée froide mais quand même ensoleillée, donc ça va, on perd pas espoir. Donc pour la revue de presse en fait de ce mercredi consacrée à la santé, à la cuisine, à la maison, vous serez en compagnie de Sophie Chevance, de Janine Petitbois. Allô Janine, comment
Allô,
ça va?
Allô, ça va bien toi?
Oui, ça va très bien. Et de Safia Larabi. Allô Safia, comment ça va?
Bonjour, très bien, merci.
Donc, petit tour de table pour la programmation de cette semaine. Janine, je pense que tu ouvres le bal. De quoi vas-tu nous parler cette semaine?
Eh bien, moi, côté santé, la détox au quotidien, selon Jacinthe René, qui nous offre des bons moyens intéressants. Et j'ai aussi une petite comparaison, à savoir, je grossis pour un rien et pas elle. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y en est.
OK. De ton côté, Safia, toi, de quoi tu nous parles cette semaine?
Eh bien, à l'approche de la Saint-Valentin, j'ai des articles qui parlent de du mois câlin, du mois d'amour, ainsi que de la cuisine en famille et comment prendre soin de son cœur et de son bonheur.
Inspirant. Et de mon côté, par la suite, moi, je vais vous parler, en fait, côté cuisine. Je vous dresserai le portrait d'une famille unie par les chèvres et le fromage et s'en suivront 6 conseils pour organiser un vin et fromage. Et puis, par la suite, côté santé, je me tournerai vers la maladie d'Alzheimer avec des conseils pour les proches. À tout de suite.
Eh bien, moi, je vous amène « La détox au quotidien », selon Jacinthe René, un article de Lucie Turgeon dans le Moi et compagnie de février 2015. Fatiguée, morose, alourdie, ces sensations sont probablement dues aux substances qui engorgent quotidiennement votre organisme. Il est peut-être temps de faire quelques changements dans vos habitudes alimentaires. Nous avons consulté notre collaboratrice Jacinthe René, auteure du livre « Vive la détox gourmande » qui a fait de ce thème un véritable mode de vie. Elle partage avec nous tous les trucs qui contribuent à son bien-être global. Et si on s'en inspirait? Selon Jacinthe René, la détoxication est essentielle à notre bien-être. Les cellules forment constamment des toxines, des déchets normaux du métabolisme que le corps travaille sans cesse à éliminer. Malheureusement, notre vie moderne nous bombarde de toxines supplémentaires, que ce soit dans l'air, dans les aliments ou dans les produits nettoyants pour la maison, ce qui fait que l'organisme n'arrive plus à toutes les supprimer. De plus, à la base, nous ne donnons pas à notre organisme tous les nutriments nécessaires afin que ses organes fonctionnent bien et éliminent les toxines. Résultat? Les toxines s'accumulent et engorgent les organes d'épuration tels que le foie et les reins, ce qui entraîne une foule de désagréments comme de la fatigue, des ballonnements, de la constipation. Bref, en raison de ces toxines supplémentaires et de notre alimentation déficiente, notre corps a besoin d'un coup de pouce, d'où l'importance de la détoxication au quotidien, affirme Jacinthe. Des principes simples. Passionnée par la quête d'une alimentation qui favorise le bien-être, Jacinthe a développé un style de vie qui maximise la vitalité. Elle ne préconise pas les cures détox agressives telles que celles où l'on ne boit que des jus, de l'eau ou des soupes pendant plusieurs jours. « Je suis contre les jeûnes et la privation », confirme-t-elle. Le plaisir de manger fait partie intégrante de sa démarche. Il est possible d'appliquer mes recommandations tout en étant comblée et en mangeant sucré.
C'est vrai, parce que souvent, c'est des choses qui ne sont pas pensées à long terme, souvent, alors c'est intéressant.
Eh oui, c'est ça. Elle est très intéressante, sa façon de faire, de voir la chose. Il est possible d'opérer une puissante transformation sans se priver en maximisant sa vitalité et tout en perdant du poids. Une alimentation la plus naturelle possible. Pour bien fonctionner, nos organes de détoxication ont besoin d'une certaine quantité de nutriments, explique Jacinthe. Un régime naturel composé d'aliments frais, entiers et aussi peu transformés que possible fournit les nutriments et les antioxydants nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme et permet de prévenir les dommages causés par l'oxydation des toxines non éliminées. À l'inverse, les produits achetés tout faits ou transformés, comme la farine blanche, le sucre blanc, les huiles hydrogénées, ne sont pas de vrais aliments qui nourrissent adéquatement le corps et l'esprit. De même, Les aliments prêts à manger et les plats préparés contiennent des additifs alimentaires tels que les agents de conservation et des agents colorants qui ne facilitent pas le travail des organes excréteurs. Les aliments faciles à digérer. Un autre principe de détoxication au quotidien consiste à privilégier les aliments faciles à digérer. Excusez-moi, ma petite grippe est encore là.
Oui.
Lorsque le corps reconnaît les aliments et les assimile aisément, il n'est ni encombré ni monopolisé et il peut bien fonctionner. Comme la digestion monopolise 80 % de l'énergie disponible, une digestion plus facile signifie davantage d'énergie pour nos activités. Or, certains aliments nécessitent plus d'énergie pour les digérer que l'énergie même qu'ils procurent. Plus le corps utilise de l'énergie pour assimiler les nutriments, moins il nous en reste pour fonctionner. Par exemple, tous les produits laitiers, pasteurisés et les produits animaliers sont difficiles à digérer. Il est donc préférable d'en réduire la consommation au minimum. On peut les remplacer par des protéines végétales comme du lait d'amande, des légumineuses et des noix. Il faut aussi savoir que plus un aliment est raffiné, plus le corps a de la difficulté à le digérer. C'est le cas des farines blanches, des sucres blancs, bruns, qu'on devrait remplacer par des farines sans gluten, du sirop d'érable ou du miel. Les aliments à haute densité nutritive. Jacinthe insiste aussi sur l'importance de manger des aliments pourvus d'une valeur nutritive optimale, autrement dit, qui nous nourrissent. Les emballages et les étiquettes font le compte des calories, mais ce n'est pas représentatif de ce que le corps reçoit réellement. Se nourrir ne signifie pas prendre plus de calories ou de poids, mais bien offrir à l'organisme les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner. Il ne faut donc pas se préoccuper des calories, mais plutôt de la densité nutritive, c'est-à-dire l'aspect nourrissant des aliments. Les fruits, les légumes, les noix, les graines, le quinoa et les algues en font partie. De plus, les aliments à haute densité nutritive ont un effet de satiété, ce qui fait en sorte que nous n'avons plus pas faim au bout de 30 minutes. Il est également, pour certains aliments crus, peuvent s'avérer difficiles à digérer. Si une personne souffre de certains troubles digestifs, il peut être préférable de cuire les aliments, soit favoriser la cuisson à la vapeur pour ne pas trop détruire les nutriments. Les bienfaits de la détox au quotidien, soulignons que le soulagement de la fatigue, de la constipation, des maux d'estomac et des migraines, la perte de poids naturel, une peau sublimée, de meilleure qualité de sommeil, le sentiment de satisfaction et d'être bien nourri, la clarté d'esprit améliorée, une absence de fringales de nourriture sucrée ou grasse, la baisse du taux de mauvais gras, donc amélioration de la santé cardiovasculaire, meilleure digestion et moins d'inflammation, donc disparition de plusieurs problèmes de santé. Alors, bonne détox!
Merci Janine pour ces conseils détox au quotidien. À présent, je vous invite à étudier la question de la cuisine en héritage. Cuisiner en famille, c'est une invitation d'Isabelle Bergeron, issue du magazine Coup de pouce de ce mois-ci. Depuis deux générations environ, une foule de recettes, de traditions familiales et d'ingrédients secrets se sont perdues chez les Tremblay, les Poulains ou les Rois. Pourquoi ? Plusieurs raisons expliquent cela. D'abord, les femmes sont sorties de la cuisine pour intégrer le marché du travail. Puis, il y a eu l'avènement du micro-ondes et celui des TV diners. Il y a aussi la montée du féminisme qui a fait en sorte que pour une génération de femmes, faire à manger était étroitement lié à une certaine forme d'asservissement, explique Olivier Riopel, sociologue de l'alimentation. Bref, le fait de moins cuisiner a nécessairement rendu plus difficile le transfert des connaissances à nos enfants. L'époque où les femmes cuisinaient 3 repas par jour ne reviendra sans doute jamais, ni celle où les enfants étaient systématiquement mis à contribution, par nécessité surtout vu leur grand nombre. Aujourd'hui, 18 % des familles québécoises impliquent leurs enfants de 12 ans et moins dans la préparation quotidienne des repas, alors que 38 % en font une activité de fin de semaine. C'est ce qu'avait révélé l'étude « Tout le monde à table » de 2010, chapeautée, par des nutritionnistes de l'Université de Montréal. Une activité que 80 % des enfants interrogés aimeraient faire plus souvent d'ailleurs. L'importance de ce rituel. Avant, quand notre grand-mère ou notre mère ne nous montrait pas à faire à manger, on était bien en peine, car c'était la seule façon d'assimiler des connaissances en cette matière, remarque le sociologue. Par ailleurs, ces connaissances étaient relativement limitées, puisqu'elles n'avaient pas accès à une grande variété d'aliments. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. La diversité d'aliments disponibles n'a jamais été aussi grande, tout comme le souci de manger sainement, et les façons d'apprendre ont définitivement débordé hors de la cuisine familiale. Maintenant, on peut apprendre à cuisiner en regardant l'une ou l'autre des nombreux d'émissions de cuisine, en naviguant sur le web, en consultant des ouvrages sur l'alimentation, en participant à des ateliers, etc. Cela dit, même si les modes de transmission des connaissances se sont multipliés, rien ne remplacera l'exemple des parents. Parce qu'un enfant apprend beaucoup par l'observation. Parce qu'un parent qui partage avec son enfant ce qu'il sait, qui s'amuse avec lui à brasser des ingrédients et à faire cuire des plats, c'est très stimulant. Qui plus est, un enfant qui cuisine régulièrement avec ses parents est plus susceptible d'aimer cuisiner une fois adulte, selon une étude de Sobeys INSEE, publiée au printemps 2014. S'il a participé à la préparation d'un repas, il sera aussi plus enclin à manger des aliments qu'il n'aura pas mangés autrement. Et en adoptant de bonnes habitudes alimentaires, il voit ses risques de souffrir d'obésité et de maladies chroniques comme le diabète diminuer sensiblement. Mais plus que tout, ce temps passé à cuisiner en famille, ce sont des moments privilégiés à haut potentiel de rigolade, de fierté et d'amour. C'est définitivement la meilleure façon qui soit d'enregistrer et de préserver ses connaissances, conclut Olivier Riopel. C'est un article de janvier 2015 et non février. À présent, retournons à notre sujet du jour qui est l'effet, le parrain câlin dans un article du Moi et compagnie de mars 2015 écrit par Anne-France Charbonneau.
Ton titre m'a intriguée, Safia, je suis curieuse de savoir de quoi ça parle.
Eh bien, c'est un article qui traite de famille, de santé et de beauté avec cette 9e édition du Moi câlin de Sainte-Justine. Qui a lieu depuis 2007, tous les mois de février.
Ok.
Alors, le mois des câlins, c'est quoi ? C'est l'occasion de donner de l'amour et de faire un câlin aux enfants qui sont traités à Sainte-Justine, tout en encourageant la recherche et la fondation de l'hôpital qui souhaite améliorer ses installations et ses services spécialisés destinés aux enfants malades du Québec. Comment ? En achetant l'embellisseur lèvres rose câlin de Clarins, chaque année, et ce depuis 9 ans, on choisit des fées câlines comme porte-parole. Cette année, Sébastien Benoît s'est offert pour jouer le parrain câlin. Question de se joindre à Mitsou, à Marie-Soleil Michon, à Julie Bélanger et à José Boudreau. Pourquoi faut-il que ce soit juste des filles les porte-paroles de la cause ? S'est demandé Sébastien Benoît. La cause des enfants me touche aussi énormément depuis la naissance de mon garçon, Laurent, qui est pourtant en bonne santé, nous a-t-il confié. J'ai beaucoup de peine à imaginer la douleur que vivent et ressentent les parents d'enfants malades. J'ai beaucoup d'empathie pour eux et je suis moi-même née à Sainte-Justine. D'ailleurs, l'animateur n'hésite pas à vendre le gloss à son entourage. Tous les gars devraient offrir ce gloss à sa blonde à la Saint-Valentin, en plus de les rendre heureuses.
Tous les jours, moi je dis.
Et il s'agit également d'une tournée chez Jean Coutu. Durant la première semaine de la campagne, les fées et le parrain câlin, donc, font la tournée des succursales Jean Coutu de la province et deviendront cosmététiciennes et cosméticiens d'un jour pour promouvoir la vente de leurs produits chouchous. Marie-Soleil nous raconte à quel point le fait d'aller au devant des gens dans les pharmacies est une expérience enrichissante. J'étais déjà accro à ce produit. Alors pour moi, c'est super facile, explique l'animatrice qui a déjà vécu l'expérience deux autres années dans le passé. J'adore la texture, la couleur, j'en ai dans mon sac un main et une maison et un autre dans la voiture. Et pendant ce temps, Josée, qui est entre les mains de la coiffeuse, nous confie qu'elle en est à sa 7e participation et nous dit tout le plaisir qu'elle a à renouveler son soutien à la cause. C'est pour moi une belle occasion de dire aux familles touchées par la maladie qu'on est là, qu'on pense à elles. Ça nous permet aussi de réaliser à quel point on a la chance d'être en santé. Et le temps qu'elle passe à jouer les cosméticiennes ? Je parle aux gens que je rencontre avec mon cœur. On jase entre filles et ça devient de petits moments de bonheur. En plus, le produit est extraordinaire. Et pour nous convaincre toutes d'aller nous procurer ce petit bijou, Mitsu nous lance convaincue et convaincante tout juste avant de s'éclipser dans le début de l'émission Mitsu et Sébastien. C'est pour la santé de nos lèvres et des enfants québécois. En aide au Centre Sirène, depuis ses débuts, cette campagne a permis d'amasser, sachez-le, plus de 2 millions de dollars qui ont été versés à la Fondation CHU Sainte-Justine. La teinte rose câlin, exclusive à l'événement, est offerte durant les mois câlins seulement chez Jean Coutu. Pour cette troisième année, l'argent amassé servira à soutenir les projets du Centre intégré du réseau en neurodéveloppement de l'enfant, Sirène, du CHU Sainte-Justine. Ce centre se veut unique en son genre. Il permettra aux enfants atteints de troubles neurologiques de consulter tous les spécialistes nécessaires lors d'un seul et même rendez-vous sur place. Ce sera une façon de faire révolutionnaire, plus efficace et très appréciée par les parents qui doivent perpétuellement consulter d'un côté et de l'autre.
Chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café, tout était recouvert de givre. Elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler mais ne le peut pas. Thank you.
Après ce titre de Zaz intitulé « La fée », merci Jean-Sébastien encore pour ces choix, ils sont toujours très pertinents. Je vous emmène en fait découvrir une famille unie par les chèvres et le fromage, c'est la famille Marchand. C'est un texte tiré du Journal de Montréal, paru le 21 janvier 2015, un texte de René Lorrain. Saviez-vous qu'au Québec, il y a plus de 400 variétés de fromages qui sont produits et que le Québec produit en fait environ 60% de la production canadienne en fromage? La semaine passée, je vous ai parlé des microbrasseries et puis, comme vous le voyez, la gastronomie québécoise entière est en croissance, pas seulement les microbrasseries, on parle aussi d'un phénomène qui s'étend aux vignobles, aux cidreries et aux fromageries. Donc, la chevrière de Monoir, c'est un rendez-vous avec les grands espaces et le bon goût du terroir, mais aussi une histoire d'amour et de passion entre un couple d'agriculteurs belges et leur troupeau de quelques 400 chèvres laitières aussi blanches que celles de M. Seguin. Il y a 33 ans, Marie-France et Michel Marchand ont quitté leur Belgique natale pour venir profiter de l'immensité des terres agricoles du Québec. Là-bas, en Belgique, Michel exploitait une ferme laitière avec ses parents et Marie-France travaillait dans une quincaillerie. Ils auraient pu continuer leur vie tranquille sans rien changer, mais le goût de l'aventure les tenaillait et le développement accéléré des villes commençait à empiéter un peu trop sur leurs terres. En 1981, ils ont racheté une ferme laitière à Marieville, au pied du mont Saint-Grégoire. Ils avaient la tête pleine d'idéaux, mais la dure réalité les a vite rattrapés. La production laitière au Québec comportait plus de contraintes qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils se sont tranquillement tournés vers l'élevage de chèvres laitières en croyant que ce serait plus facile. « Nous avons été désillusionnés », raconte Marie-France. « Même si nous adorons les chèvres, ça prend beaucoup de petites pattes pour faire le même nombre de litres de lait. » En effet. L'amour des bêtes. Cette fois, par contre, l'amour de leurs bêtes a eu raison de toutes les difficultés rencontrées. Leur troupeau est rapidement passé de 40 à 700 têtes. Au cours des 10 dernières années, ils ont commencé à transformer eux-mêmes le lait de leurs chèvres, puis aménager sur leur terre une ferme éducative et une boutique où l'on peut se procurer leur fromage, viande de chevreau et charcuterie. Un malheureux incendie a décimé une bonne partie de leur troupeau en 2010. Malheureux événement. La famille s'est serré les coudes. Trois des quatre enfants du couple, qui avaient tous trouvé des emplois à l'extérieur, se sont joints à l'entreprise. Les chèvres sont sympathiques, enjouées. Un peu tête de cochon parfois, mais ça fait leur charme et on s'attache rapidement, dit Joanne, la benjamine des trois filles du couple. Elle s'occupe aujourd'hui des communications de l'entreprise. Son frère Michel et sa sœur Christelle sont récemment devenus propriétaires de la fromagerie du Vieux-Saint-François à Laval. Ils y transforment le lait des chèvres de leurs parents en délicieux fromages, tous plus savoureux les uns que les autres. Alors, vous avez quelques coups de cœur. Il y a le Petit Prince, qui est un fromage frais non affiné à pâte molle, au goût plus complexe et moins acide que le fromage de chèvre crémeux qu'on trouve habituellement sur les tablettes des épiceries. Il y a aussi la tome de Marieville, un fromage affiné 6 mois à la pâte ferme qui rappelle agréablement le parmigiano italien, qui apparemment vaut le détour. Et puis, il y a ensuite le fromage en grains de chèvre, une excellente alternative pour les amateurs qui sont allergiques aux protéines bovines. Et puis, enfin, une nouveauté, on nous parle de la cloche cendrée. On est dans les fromages, alors on y reste. J'en profite pour vous donner 6 conseils pour organiser un vin et fromage. Alors en préparation, combien de temps à l'avance peut-on acheter les fromages? Le plus près possible de votre dégustation, mais jusqu'à 2 jours avant. C'est très acceptable. Il est également important de les acheter fraîchement coupés plutôt que déjà emballés. Ensuite, question, on les sort d'avance du frigo? Oui, mais pas plus de 45 minutes. On veut que nos fromages se tiennent et soient juste un peu frais. Si on les laisse trop longtemps, ils suintent, sont trop coulants et perdent leur gras. Ensuite, comment bien conserver les fromages? Premier truc, en acheter moins et plus souvent. On les garde dans leur emballage original fourni par le fromager qui contient 2 épaisseurs. On fait un paquet cadeau avec notre fromage sans même avoir besoin d'attache ou de ruban gommé. On range ensuite nos fromages dans le tiroir à légumes du réfrigérateur avec des légumes qui maintiennent un bon taux d'humidité. Si on n'a que de petits restes qu'on compte manger au déjeuner le lendemain, on place simplement un bol inversé sur notre assiette. Attention, pas de sac en plastique ni de pellicule de plastique, véritable usine à condensation qui favorise la formation de moisissures. Quant au papier ciré, il assèche le fromage. Ensuite, pour l'accompagnement, y a-t-il des mariages à éviter avec les fromages? Une grande erreur, semble-t-il, les raisins. Même si ça fait épicurien, les raisins et tous les fruits acides altèrent notre goût. Exactement le contraire de ce qu'on cherche. Des idées d'aliments alors à jumeler avec le fromage, on parle de fruits doux comme la poire, la papaye, bien mûrs, les figues et certains petits fruits d'ici. Fraises, bleuets, cerises de terre, les fruits séchés aussi et les châtenais ou compotes sont intéressants. Sureau et pimbina, on nous parle de ces deux types. Rouge ou blanc, quel vin est le mieux? Quand on parle de dégustation de fromage, on pense naturellement au vin rouge. Selon la sommelière Élise Lambert, cette habitude vient du fait que le plateau de fromage est presque toujours servi après le plat de résistance, souvent constitué de viande, et que généralement c'est du rouge qu'on a dans notre verre. Mais pour une dégustation, cette spécialiste recommande plus souvent le vin blanc car les caractéristiques organoleptiques du fromage, crème, beurre, noisette, etc., s'harmonisent plus naturellement avec celui-ci. Aussi, les tanins de certains rouges ne font pas bon ménage avec le fromage. Juste pour vous rappeler, le texte que je viens de vous lire était issu du journal Le Métro du 4 décembre 2014, un texte de Nadine Deschenaux. Petite brève, l'aspirine, un puissant anticancer. L'aspirine, prise quotidiennement à faible dose, fait déjà partie des recommandations pour prévenir ou traiter les maladies du cœur. Voilà qu'une récente recherche de l'Université de Londres conclut qu'elle réduirait aussi de façon significative l'occurrence et la mortalité des cancers de l'estomac, du côlon et de l'œsophage.
Eh bien, nous allons revenir très bientôt après la pause, les filles. On prend un petit repos.
À tout de suite.
Et nous voilà de retour. Merci, Jean-Sébastien. Un petit article « Je grossis pour un rien et pas elle ». Un article écrit par Isabelle Huot, docteur en nutrition, dans le Moi et compagnie de février 2015. Toutes les femmes ne sont pas égales devant la calorie. Certaines peuvent manger à peu près n'importe quoi sans prendre un gramme, tandis que d'autres engraissent après seulement quelques petits écarts. Quels sont les facteurs qui expliquent cette différence? Mais surtout, peut-on renverser la vapeur? Une question de métabolisme. Le métabolisme de base, c'est-à-dire les calories qu'on dépense au repos, varie considérablement d'un individu à l'autre. Si l'on estime ses besoins énergétiques en fonction de son sexe, son âge, sa taille et son poids à l'aide d'une formule mathématique, on ne peut pas tout mettre dans l'équation. En effet, les facteurs qui entravent le bon fonctionnement du métabolisme n'y figurent pas. Les facteurs qui réduisent la dépense calorique, les régimes sévères, une restriction énergétique sévère, moins de 1200 calories par jour, peut affecter le métabolisme de base à long terme. L'organisme se met alors en mode réserve. Le métabolisme de base ralentit. Afin d'éviter de manquer de carburant pour assurer les fonctions vitales, certaines études ont démontré que le métabolisme reste bas, même si l'apport énergétique revient à la normale. La ménopause et le vieillissement. À la ménopause et même déjà en périménopause, le métabolisme chute d'environ 200 calories par jour, si bien que le gain de poids moyen des femmes à cette période est de 10 à 15 livres, un dur coup à encaisser. Le métabolisme poursuit son ralentissement avec l'âge, mais en règle générale, il s'accompagne d'une perte d'appétit, si bien que la femme plus âgée est plus apte à maintenir son poids. La sédentarité, plus la masse musculaire est développée, plus le métabolisme est actif. Le fait de ne pratiquer aucune forme physique affecte considérablement notre petite fournaise brûleur de calories. Voici donc des astuces pour activer son métabolisme. En consultation dans mes cliniques, je rencontre régulièrement des femmes ayant des métabolismes lents. Souvent, elles ont enchaîné les régimes et sont continuellement en restriction alimentaire. Chaque fois, les clientes sceptiques sortent de mon bureau avec l'impression qu'elles perdront du poids si elles mangent tout ce que je leur propose. Qu'elles prendront du poids. Si elles mangent tout ce que je leur propose, imaginez leur surprise lorsqu'elles constatent sur la balance qu'elles ont maigri en mangeant plus. Donc, manger 6 fois par jour. On ne devrait jamais passer plus de 3 heures sans manger. Le fait de manger souvent dicte au métabolisme de brûler régulièrement les calories ingurgitées. Je conseille les collations légères, moins de 200 calories, qui apportent des glucides et des protéines. Ce sont des collations qui soutiennent et favorisent un bon métabolisme. Voici quelques exemples. Une pomme et 30 grammes, environ 1 once de fromage allégé, des crudités et 1 œuf, 60 ml, environ 1/4 de tasse, de noix et de fruits séchés. Ne pas stresser son organisme avec une restriction calorique. Je ne conseille jamais un régime en deçà de 1300 calories. Je prône plutôt les régimes de plus de 1500 calories, surtout dans le cas des métabolismes lents. Je réintroduis progressivement les calories histoire d'habituer l'organisme à manger et à brûler plus. Pratiquer une activité physique 5 fois par semaine. Chère activité physique, on nous le dit toujours, le secret des gens qui ont beaucoup maigri et qui maintiennent leur poids repose en grande partie sur la pratique régulière d'activité physique. En effet, il n'y a rien de tel pour conserver un métabolisme actif. Les activités qui incluent les intervalles d'intensité sont celles qui stimulent le plus le métabolisme. Il ne faut pas négliger non plus les exercices de musculation, car les muscles sont d'excellents brûleurs de calories. Manger épicé. D'après les études conduites par le chercheur Angelo Tremblay de l'Université Laval, la capsaïcine présente dans le piment fort a non seulement le pouvoir de réduire l'appétit, mais également de stimuler légèrement le métabolisme. Épicer ces plats est donc une bonne idée et il faut surtout éviter les suppléments de capsaïcine qui peuvent irriter l'estomac considérablement. Une question de génétique. Outre les facteurs mentionnés plus tôt qui peuvent influencer sur notre tendance à gagner du poids ou non, il y a également nos prédispositions génétiques. Si nos parents ont toujours été minces sans faire de régime, il y a de fortes chances que nous arrivions à gérer notre poids sans difficulté. Les études le démontrent. Des parents obèses lèguent à leurs enfants tant la génétique que l'environnement qui prédispose au gain de poids. Si nos facteurs génétiques sont défavorables, il est donc sage de consulter un nutritionniste pour faire le point sur nos habitudes alimentaires. Cela dit, la tendance est à la nutrigénomie. Cette nouvelle science étudie les interactions entre les nutriments, les gènes et le métabolisme. Ainsi, elle permet d'expliquer pourquoi certaines personnes réagissent différemment aux nutriments en fonction de leur profil génétique et des mutations de certains gènes. Même si elle est encore jeune, cette science nous donne déjà quelques outils pour mieux intervenir selon notre génétique. Vous voulez un petit peu plus d'informations? Allez voir kilosolution.com. Merci et bonne journée.
Retour au kiosque magazine avec un article spécial Saint-Valentin. C'est un article de Sophie Durocher pour Moi et compagnie de ce mois-ci, mars 2015.
Non, le mois prochain, en février, ça fait.
Oui, sauf que la publication est en avance.
Ok, ok.
Donc, une Saint-Valentin pour soi. Catherine, une de mes amies, est présentement en arrêt de travail, épuisement professionnel. Elle n'avait tout simplement plus, elle n'arrivait plus à mettre son âme au boulot. Vous vous demandez pourquoi je vous parle de cette copine dans une chronique consacrée à la Saint-Valentin. Parce que Catherine a passé les derniers mois à prendre soin des autres et qu'elle a oublié de prendre soin d'elle. En fait, ça fait des années qu'elle aime les autres au lieu de s'aimer elle. Au lieu de s'offrir une carte de Saint-Valentin avec un gros cœur rouge à son chum, son fils, sa fille, son père ou sa mère, je voudrais qu'elle s'envoie une carte à elle-même cette année. Qu'elle s'envoie de l'amour à elle. Elle en a tellement donné aux autres. J'espère qu'il lui en reste. Catherine m'a raconté que, durant les premiers jours de son arrêt de travail, elle a passé des journées entières à pleurer. Elle ne se rendait plus compte de ce qu'elle aimait. Je sais même plus quelle est ma couleur préférée. Chaque fois qu'elle va au cinéma avec son chum, elle choisit un film qui lui plaît à lui. Elle connaît bien les goûts de son amoureux. Quand elle prépare les repas, elle tient compte des allergies de sa fille, des goûts de son fils, des préférences de son chum et du fait que la nouvelle blonde de son fils, toute tatouée et remplie de piercings, est végétarienne. Elle cuisine du steak pour l'un et du tofu pour l'autre. Elle connaît bien les goûts de sa famille. Mais à force de connaître les goûts des autres, elle a oublié les siens. Quand elle voyage, elle veut faire plaisir à ses parents, à ses enfants. « Je ne sais même plus quel pays j'aimerais visiter si je partais seule », m'a-t-elle confié. Je sais que Catherine n'est pas la seule. Des Catherine qui s'oublient, se négligent et s'effacent. Il y en a plein. Elles prennent soin de leurs enfants qui grandissent, de leurs parents qui vieillissent, de leurs chums qui ramollissent. J'en connais même qui font du bénévolat, prêtes à donner du temps et de l'affection à des inconnus, plutôt que de se donner à elles-mêmes, ne serait-ce qu'une petite tape dans le dos. Elles font passer les autres avant elles. Elles sont les dernières en bas de la liste. La designer, Diane von Fürstenberg, a dit une phrase importante que je devrais faire encadrer pour l'offrir à mon amie Catherine. « La relation humaine la plus importante que vous pouvez avoir est avec vous-même. » Et si, à la Saint-Valentin, toutes les Catherine qui s'oublient, se négligent et s'épuisent, se donnaient un cadeau? La fête de l'amour, amenez-en, si elles s'en donnaient, au lieu d'en donner aux autres. Droit au cœur, un nouvel article de Moi et compagnie de mars 2015, écrit par Isabelle Huot, docteur en nutrition. Droit au cœur, les maladies cardiovasculaires comptent parmi les premières causes de mortalité au Québec. Pourtant, les facteurs de risque associés sont bien connus, si bien qu'on peut jouer la carte de la prévention en modifiant ses habitudes de vie. En ce mois de février, mois du cœur, je vous présente mes 7 règles d'or pour avoir un cœur en bonne santé. Première règle, limiter la consommation de mauvais gras. Les gras trans, issus des huiles partiellement hydrogénées et du shortening, sont les plus nocifs pour la santé. Ils haussent le mauvais transporteur de cholestérol tout en abaissant le bon transporteur. Comment les détecter ? En lisant la liste des ingrédients des produits de boulanger principalement. Côté mauvais gras, les gras saturés, bien que moins dommageables que les premiers, sont aussi à surveiller. On les trouve concentrés dans les huiles de palme et de palmiste, les produits laitiers riches en gras, crème, beurre, fromage et les viandes. Deuxièmement, hausser l'apport en bons gras. Si on limite certains gras, on prend soin d'intégrer de bons gras à notre menu. Les bons gras qu'on trouve dans les noix et les graines, les huiles d'olive et de canola et les avocats sont associés à un meilleur profil lipidique. Les habitants des pays qui bornent la Méditerranée consomment ce type de gras en abondance et leur risque de MCV, maladie cardiovasculaire, est considérablement moindre. On s'en inspire. Troisième possibilité, manger du poisson 3 fois par semaine. Faible en gras, saturé et riche en bons gras oméga-3, le poisson est un allié pour un cœur en santé. On met le poisson gras, thon, saumon, truite, maquereau, sardine, au moins au menu 2 fois par semaine et on complète avec un poisson plus maigre de type morue, tilapia ou sole. Augmenter sa consommation de fibres solubles peut être un autre moyen. Ce type de fibres qu'on trouve dans le psyllium, le son d'avoine et la graine de chia a le potentiel d'abaisser le LDL cholestérol. On en consomme chaque jour 1 cuillère à soupe. Boire modérément. Toute forme d'alcool hausse le HDL cholestérol. Il est conseillé de prendre une consommation par jour pour en retirer des bénéfices cardiovasculaires. Le vin, surtout le rouge, présente un avantage en raison de son contenu en polyphénol, des antioxydants qui prennent l'oxydation du LDL. Maintenir un poids en santé. Un excès de poids, surtout autour de la taille, est associé à plusieurs facteurs de risque des maladies cardiovasculaires comme l'hypercholestérolémie, l'hypertension et le diabète. Atteindre et maintenir un poids santé est un must pour son cœur. Outre de conserver de saines habitudes alimentaires, il est recommandé de pratiquer une activité physique et modérée à intense au moins 3 fois par semaine. Enfin, réduire sa consommation de sodium. L'apport en sodium quotidien devrait se situer entre 1500 et 2300 mg. Un excès de sodium prédispose à l'hypertension artérielle, un facteur de risque important des maladies cardiovasculaires, incluant les accidents vasculaires cérébraux. Pour réduire sa consommation de sel, on lit attentivement le tableau d'information nutritionnelle et on opte pour des produits qui apportent 5% au moins de la valeur quotidienne.
Elle m'a dit tu repars sans que je t'arrête, sans lever les bras, sans baisser les yeux, arrive en retard, trouve une défaite. Dis-toi que j'y crois, fais ce que tu peux. Thank you.
Après ce titre du groupe Carquois N'oublie pas, je vous emmène côté santé. On a parlé beaucoup de cuisine aujourd'hui, je vous emmène côté santé et vous parle en fait de la maladie d'Alzheimer. Safia, la semaine prochaine, va nous parler beaucoup de bonheur. Alors j'avais justement quelque chose, j'avais une introduction en lien avec ça. Le bonheur, parfois, ce sont des choses simples et pour une personne atteinte d'Alzheimer, c'est peut-être par exemple écouter de la musique. J'ai en fait été moi-même très inspirée par tout ce qui s'est dit sur la maladie d'Alzheimer et notamment sur les liens entre les liens entre la musique et la maladie. Donc ça m'a mis en fait littéralement la puce à l'oreille, ça m'a inspirée et ça m'a donné envie de vous parler de cette maladie et de vous partager en fait un dossier qui est paru sur passeportsanté.net en date du 15 janvier 2015. Alzheimer, des conseils pour les proches. La maladie d'Alzheimer et toutes les maladies apparentées sont lourdes de conséquences pour les proches. Prendre soin d'une personne qui en est atteinte demande du temps, de la patience, de la disponibilité, de l'énergie, mais aussi des connaissances. Passeport Santé livre donc 7 grands conseils pour rendre la vie plus facile. Premièrement, bien comprendre la maladie d'Alzheimer. Tenant son nom du chercheur qui l'a découverte en 1906, la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative évolutive du système nerveux central. Elle se traduit par des lésions cérébrales majeures qui entraînent petit à petit une diminution des fonctions cognitives. En chiffres, la maladie d'Alzheimer, c'est près de 25 millions de personnes touchées dans le monde. En 2014, au Canada, on parlait de 750 000, donc plus de 750 000 Canadiens touchés par la maladie. En France, il s'agit de 850 personnes qui sont malades. Et puis, si on écoute les prévisions pour le Canada, d'ici 2031, 1,4 million de personnes seront concernées par la maladie. Les signes d'alerte sont multiples, mais ne signifient pas forcément que la personne soit atteinte de la maladie d'Alzheimer. On parle de perte de mémoire récente et difficulté à enregistrer de nouvelles informations, de désorientation dans le temps et l'espace, d'une perte de raisonnement, de difficulté à planifier et organiser son temps, des modifications fréquentes de l'humeur et du comportement et de problèmes de langage. Au moindre doute, il ne faut pas hésiter à en parler, voire même à consulter un médecin généraliste qui pourra aiguiller la personne vers un médecin spécialiste, un neurologue ou un gériatre. Alors ensuite, en deuxième conseil, savoir accepter la maladie d'un proche. Apprendre soudainement qu'un proche est atteint de la maladie d'Alzheimer est souvent une expérience difficile. Généralement, la famille passe par plusieurs étapes dans l'acceptation de la maladie, même si chaque cheminement reste différent. Le proche peut d'abord nier la réalité, donc c'est une période de déni qui s'ensuit par un stade de négociation au cours duquel la personne devient consciente que son proche est malade. Mais il se persuade en fait, la personne se persuade qu'une solution existe pour améliorer la situation. Et à l'issue de ce stade, il arrive que le proche traverse une phase de dépression, où il se rend compte que le processus est inévitable et qu'aucun traitement ne peut améliorer l'état du malade. Cette dernière phase peut être génératrice d'insomnie, d'irritation, voire même d'agressivité. Il s'agit alors de faire le deuil d'une personne qui n'est pas morte, mais qui peu à peu perd des capacités mentales. Donc on parle d'un deuil de la relation, qui peut s'accompagner aussi d'un deuil du rôle. L'enfant devient le parent et vice-versa, ou le conjoint devient l'aidant et les tâches sont redistribuées. Dans les années à venir, le proche doit s'attendre à devoir accepter de nombreux deuils et pour l'aider à mieux les vivre, il devra les connaître, les reconnaître, les accepter et se centrer sur ce qu'il est encore possible de faire et non sur ce qu'il n'est plus possible. Ensuite, mieux communiquer avec la personne malade. Il faut savoir utiliser différents moyens pour faire passer un message car la personne touchée a de plus en plus de difficultés à exprimer ses idées et à comprendre ce qu'on lui dit. Le langage corporel, les expressions du visage ou le ton de la voix délivrent eux aussi des messages susceptibles de faire réagir une personne malade. Quelques conseils pour améliorer les communications. Encourager toujours la conversation afin d'éviter l'isolement. Poser davantage des questions fermées plutôt que des questions ouvertes. Laisser le temps à la personne de comprendre ce que vous dites et de répondre. Éviter les sources de distraction comme la télévision ou la radio lorsque vous lui parlez. Faites des phrases simples et soyez attentif au non-verbal. Et ne haussez surtout pas la voix et ne montrez pas non plus de signes d'agacement. Il est important de garder en tête que la personne atteinte conserve ses sentiments et apprécie les gestes de tendresse jusqu'à la fin de la maladie. Un regard sévère ou des mots durs peut blesser votre proche. Ensuite, connaître les aides de l'aidant. Donc généralement, l'aidant est très impliqué dans l'accompagnement de son proche et peut progressivement négliger son propre état de santé. Au Canada, il y a plusieurs aides qui existent et qui prennent plusieurs formes. On parle d'abord de structures qui peuvent prendre le relais sur les soins, l'accompagnement à la vie sociale, au maintien de l'autonomie, etc. Mais aussi d'aides financières. Si, au cours de l'année, vous avez hébergé une ou plusieurs personnes à charge ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales, vous pouvez avoir droit à un montant allant jusqu'à 4 530 $. Voire 6 588 $ si la personne à charge est admissible au montant pour aidants familiaux, le MAF. Ensuite, s'autoriser du répit. La Haute Autorité de Santé suggère aux aidants d'une consultation médicale annuelle pour évaluer leur état physique et psychique. Il est primordial de continuer à s'accorder du temps de relaxation et de détente. Et essayer également de mettre en place une vie paisible et équilibrée. Ensuite, ne pas culpabiliser. Pour cela, vous devez d'abord rester réaliste à propos de vos capacités. Prendre soin d'une personne dépendante requiert énormément de temps et vous ne pourrez pas tout faire. Il vous faut fixer des limites. Certains ont du mal à admettre qu'elles ne peuvent pas tout faire ou culpabilisent de ne pas en faire assez. D'autres culpabilisent par rapport à ce qu'ils ressentent. Toutes ces émotions, ces pensées ou ces émotions négatives que vous ressentez parfois ne signifient pas que vous n'êtes pas capable de prendre soin de quelqu'un. Cela signifie tout simplement que vous êtes humain. Pourquoi ne pas échanger vos émotions avec d'autres aidants ou des personnes de votre famille? Et enfin, pour finir, veillez à la sécurité de la personne malade. Que vous accueillez la personne atteinte de la maladie chez vous ou que vous lui rendiez visite, il vous faudra sans doute aménager le logement pour le rendre plus sûr. Faites un état des lieux afin d'évaluer les risques potentiels et réévaluez-les régulièrement au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Posez-vous les bonnes questions telles que la personne peut-elle encore utiliser sans danger des appareils électriques de cuisine? Les tapis doivent-ils être rangés pour prévenir les chutes? Ou bien est-il nécessaire de fermer à clé certaines portes ou accès? Par ailleurs, il est important de vérifier régulièrement que la personne a encore la capacité de conduire. Un examen individuel de ses aptitudes permettra d'éviter tout avis subjectif. Il n'est pas question de lui retirer le droit de conduire plutôt que nécessaire. Rapprochez-vous d'une association telle que la Société d'Alzheimer au Canada pour des renseignements sur les programmes d'évaluation de la capacité de conduire. Attention, même s'il est nécessaire de rendre l'environnement du malade plus sûr, il est important d'accorder à la personne la plus grande maîtrise possible de sa vie. Elle doit pouvoir faire ses propres choix aussi longtemps qu'elle en est en mesure.
Moi, j'ai mes petits conseils de détox, les aliments à éviter et ce qu'on peut remplacer simplement pour continuer la chose. Donc, à éviter nos aliments, les viandes, les produits laitiers, les sucres raffinés blancs, les bruns, le maïs, le gluten, les aliments transformés, nos biscuits, nos pâtisseries, les boissons gazeuses ou énergétiques, les huiles raffinées. On les remplace par des légumineuses, des pousses germées, du lait d'amande, du lait de chanvre, les fromages végétaliens, du sirop d'érable, du miel, les farines sans gluten, le riz, le sarrasin, le sésame, le quinoa, des fruits aussi, alors toujours nos bons fruits, nos légumes, les graines, les noix. L'eau, on l'agrémente de quartier de citron ou d'orange, de l'eau de coco. Nos huiles vierges crues de lin, de chanvre, de sésame, d'olive, de noix de coco et tout ça. Alors, on y va à la détox.
Pour fêter la Saint-Valentin en famille, et si nous assistions au bal des enfants? On s'offre une grande sortie familiale en y assistant à cette soirée bénéfice visant à permettre à des petits de tous les milieux d'accéder au programme jeunesse de l'Orchestre symphonique de Montréal. Au menu, un goûter féerique suivi d'un concert-spectacle inspiré du conte Alice au Pays des Merveilles et mettant en vedette la jeune Alice Morel-Michaud. Et Patrick Drolet, une soirée chic et grandiose dès 5 ans. Le 14 février à 16h, c'est à la Maison Symphonique de Montréal.
Alors, voici, notre heure est terminée. Merci à vous d'avoir été là avec nous. Merci, les filles. Et un grand merci à Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde et ses choix musicaux toujours appropriés. Si vous avez des commentaires, vous pouvez nous joindre au 1-800-361-0635 ou écouter nos émissions sur Canal M de Vues et Voix. On salue aussi notre cher Dominique de retour de vacances, mais il faut savoir que ses valises ne sont pas très, très loin puisqu'elle semble avoir apprécié ses petits déplacements. On la salue et on espère la revoir bientôt. Alors, on vous dit un beau merci. Au revoir, mercredi prochain.
À la semaine prochaine. Au revoir.